L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 12 juin 1994. Il est 22h16 dans les rues de Los Angeles. Dans deux petites minutes, un couple qui rentre du restaurant va appeler le 911 qui se rendra sans tarder au 875 South Bundy Drive. La macabre découverte qui s'ensuivra ouvre l'affaire du siècle. Celle où l'une des plus grandes stars du sport US, O.J. Simpson, devra se battre pour prouver son innocence, le tout au prix d'innombrables rebondissements. 22h16, c'est l'heure H de mon histoire. La soirée qui se termine est des plus belles. Dans leur Cadillac décapotable, Patrick et Jane Beverly rentrent tranquillement chez eux. Ils ont dîné dans leur restaurant favori avant de se rendre au Thunderbird Bar pour un dernier verre. Nous sommes au cœur du quartier de Brentwood, cossu agglomérat résidentiel de la ville de Los Angeles. La Cadillac, fleuron de l'industrie US, zigzague entre les habitations toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Jane est subjuguée. Une des maisons a une tour centrale. L'autre, une piscine à débordement. Quelques personnes sont dans la rue, mais le calme de la nuit est déjà tombé et dans l'ensemble. Seules les lumières dans les foyers rappellent que ce quartier vit. Patrick, lui, a allumé une cigarette. Toujours la même marque, des JPS, John Player Special. Ce fan de sport auto ne peut rien fumer d'autre que les cigarettes du paquet aux reflets noirs et or. L'horloge du tableau de bord affiche 22h10. La radio crachote le dernier titre de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Le conducteur monte le son et, au grand dam de sa femme, prend sa plus belle voix de sous la douche et se met à fredonner, persuadé d'avoir le talent nécessaire pour devenir lui aussi une rockstar. Jane, elle, est plus sceptique sur son plan de carrière. Dans son job de trader, Patrick est certainement plus doué et bien mieux payé. C'est ainsi que se passe leur vie, tranquille, sans rebondissement, tout en contrôle. Elle a toujours détesté les mecs un peu tête brûlée, ceux qui conduisent des pick-up un peu miteux et qui élèvent des chevaux ou traînent dans les bars. Elle est originaire de Houston, Texas, et peu satisfaite du potentiel de la gente masculine dans cet état du Sud, elle a vite mis les voiles pour la côte Est. Sitôt descendue de l'avion, elle a rencontré Patrick, qui conduisait une Chevrolet rutilante et qui écoutait le dernier titre des Beatles. Rien à voir avec ces morceaux de musique country qui sentent la naphtaline. Le petit mécheux a séduit la fille du Sud et ils se sont engagés ensemble sur l'autoroute de la routine. Et c'était une excellente chose. Comme d'habitude, lorsqu'il termine une cigarette, Patrick la lui donne et, comme d'habitude, elle la met dans le cendrier de la voiture. Mais là, subitement, Patrick a pilé les deux pieds sur le frein et Jane laisse échapper le mégot qui rebondit avec douceur sur le trottoir à l'extérieur. Un chien paniqué vient de traverser la route presque sous ses roues et voilà que maintenant, il s'approche de la voiture avec l'air d'un gosse qui cherche désespérément quelque chose. Jane n'a jamais aimé les bêtes, les gosses non plus d'ailleurs. Mais dans ce cas précis, un détail qui n'en est pas un attire son attention. Il a les pattes pleines de sang. Sans le faire monter à bord, le couple décide de le suivre afin de voir s'il les mène quelque part. Patrick a vu dans un reportage sur CBS que parfois c'est possible. Il n'a jamais eu de chien non plus, il est allergique aux poils. Le clébard, après quelques va-et-vient, marque sa position au 875. La lumière faiblarde du lampadaire public permet tout juste à Jane de deviner une vision d'horreur. Sous le portail en fer forgé noir, à peine entrouvert, une immense flaque de sang se dessine. Patrick, lui, la main tremblante, a déjà appelé le 911. À leur arrivée sur les lieux, les policiers de Los Angeles n'ont qu'à ouvrir le portail pour découvrir le corps d'une femme poignardé à plusieurs reprises à la tête et au cou d'une manière extrêmement violente. La suite des événements conduisent à la découverte d'un deuxième corps, celui d'un homme cette fois, venu mourir au pied d'un arbre de la propriété. Il a été lacéré de coups de couteau, à l'abdomen, au cou et dans le dos. Tous les deux sont décédés depuis moins de 2 heures, selon les premières constatations, et on ne tarde pas à connaître leur identité. L'homme s'appelle Ronald Goldman. Il est serveur dans un restaurant sur la Mezzaluna et il a 25 ans. La femme, elle, se nomme Nicole Brown. Elle a 35 ans et les enquêteurs retracent facilement son emploi du temps de la soirée, puisqu'elle a dîné dans le restaurant qui emploie Ronald. Et visiblement, la jeune femme oublie en partant une paire de lunettes et le serveur est venu lui redéposer. Mais Nicole n'est pas une victime lambda, comme on en trouve parfois dans les faits divers des rues de la métropole des Anges. Non. C'est la femme d'une ex-star du foot et de la télé en Amérique, le géant O.J. Simpson. Ce sportif de 46 ans est une icône, un running back implacable, détenteur de multiples records et intronisé au Hall of Fame. Depuis sa retraite sportive, il s'est reconverti en commentateur sportif et star de télé-réalité. Un gros poisson, donc. Il vient de divorcer de Nicole. Ils ont néanmoins passé une partie de la journée ensemble, dînant ensuite chacun de leur côté. Puis O.J. a pris l'avion pour Chicago et c'est en arrivant dans l'Illinois qu'on lui apprend la tragédie au téléphone. Sa réaction intrigue. Il semble sous le choc, certes, mais ne demande pas de quoi son ex est décédé. Son comportement au bout du fil paraît en cela suspect aux enquêteurs et, bien que la star prenne tout de suite un avion pour rentrer à Los Angeles, son nom figure déjà en haut de la liste des potentiels meurtriers. En effet, personne parmi les équipes d'enquête ne croit à un cambriolage qui aurait mal tourné. La violence de l'attaque est sans équivoque. Tout ceci est personnel. La machine qui se met alors en route ce soir de pleine lune de juin 1994, implacable et souvent déroutante dans le cas de ce procès, va marquer l'histoire judiciaire des États-Unis. Montez avec moi dans la Ford Bronco d'O.J. Simpson. Nous allons ensemble retracer le procès du siècle. Lors de la découverte des corps, les deux enfants du couple dorment encore dans leurs chambres respectives et n'ont pas été réveillés par l'attaque perpétuée sous les fenêtres de la résidence. L'attitude jugée suspecte du père de famille, lorsque les enquêteurs lui ont téléphoné, les incite à se rendre chez lui. À leur arrivée, stupeur. Ils trouvent des traces de sang à de multiples endroits de la propriété en faisant le tour extérieur de la maison. Sur les murs, dans les parterres de fleurs, sur les fenêtres, il y en a partout. Pire, ils mettent la main sur un gant ensanglanté du même modèle de celui qui a été retrouvé sur les lieux du crime à côté du corps du serveur. Ce sont donc des éléments particulièrement accablants pour l'ancien footballeur qui, à son retour de Chicago, se terre derrière ses murs en compagnie de certains de ses plus proches amis. Parmi eux, une dynastie devenue célèbre aujourd'hui, les Kardashian. Les 4 jours qui suivent se passent dans une angoisse éprouvante pour la star, qui voit l'étau se resserrer autour de lui. Les enquêteurs ont désormais assez d'éléments pour l'arrêter. Le 15 juin d'abord, puis le lendemain, on signale à Simpson qu'il risque d'être mis sous les verrous. Mais la police ne se décide à agir que le surlendemain. C'est le 16 juin que sont enterrées dans 2 cérémonies distinctes les victimes de l'assassinat. O.J. Simpson assiste aux funérailles de son ex en compagnie de leurs 2 enfants. Son arrivée est débonnaire, en limousine blanche et entourée de gardes de sécurité d'une compagnie privée. Durant la cérémonie, son comportement est scruté par tous. La famille de son ex-femme lit des poèmes, lui pleure et prie en compagnie de ses enfants. Plus de 200 journalistes, cadreurs, équipes de télévision sont présents pour couvrir l'événement. Chacun de ses faits et gestes est filmé. Un subtil stratagème lui permet, après la procession au cimetière, d'échanger ses vêtements avec l'un de ses amis et ainsi de se rendre chez Robert Kardashian plutôt que chez lui. Il y retrouve alors sa nouvelle compagne. La cérémonie rendant hommage à la deuxième victime, le serveur du restaurant, se tient, elle, dans l'intimité. Dès le début de l'enquête, on apprend que les deux exécutés entretenaient depuis peu une relation amoureuse. Simpson, lui, sent l'étau se resserrer autour de lui. Dès le lendemain de l'enterrement, Kardashian et Robert Shapiro, un avocat très connu de la ville de Los Angeles, préparent la défense de la star. Toute la journée, la pression monte et OG devient peu à peu incontrôlable. C'est là que se déroule un épisode légendaire de cette histoire médiatique. Nous sommes le 17 juin 1994, il est 19h30 passé. O.J. Simpson est prévenu que les forces de l'ordre arrivent pour l'arrêter. Il est cerné. Il est avec ses amis et, sans réfléchir, dans un élan de panique, il attrape un sac dans son dressing et enjoint l'un de ses amis de prendre le volant de sa voiture et le conduire loin de la ville. Le contenu du sac ? Son passeport ? Un 357 Magnum chargé et de l'argent liquide en conséquence. Sous pression, son contact prend le volant de sa Ford Bronco, magnifique 4x4 des années 90, et fonce sans se retourner. L'idée est des plus suspectes et des moins réfléchies. Recroquevillé derrière le siège conducteur, le géant Simpson aperçoit les caméras et les policiers autour de la maison médusés et sous le choc. Bientôt, la Ford sillonne les artères des quartiers résidentiels, prise en chasse par une meute de voitures de police de la ville. Simpson hurle sur son ami de prendre l'autoroute. La Bronco rugit et s'élance à pleine vitesse sur la voie rapide dégagée par les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, la course-poursuite, totalement lunaire, se retrouve diffusée en direct à la télévision et est suivie par près de 95 millions d'Américains à travers tout le pays. Les deux heures que dure ce cirque routier, les commandes de pizza doublent. Tout le monde est scotché devant sa télé ou se trouve sur le bord de la route pour encourager le fugitif. Dans les airs, un essaim de 12 hélicoptères poursuivent la mascarade, tant la police, qui veut éviter un drame, suit avec prudence et de manière ralentie la Ford. L'ami de Simpson, lui, sue à grosses gouttes, devant la foule qui se presse, le balai aérien au-dessus de sa tête et la meute à ses trousses, prête à l'attaque. Il enjoint au suspect de se rendre à de nombreuses reprises, mais la star le menace de faire usage de son magnum pour se suicider. Alors que la radio crépite entre deux notes d'un riff de Peter Gabriel, les deux hommes vivent un huis clos malsain et qui n'a aucune chance d'aboutir de manière positive. À ce moment sonne le téléphone personnel de la star. À l'autre bout du fil, les négociateurs de la police de Los Angeles. Depuis quelques minutes, la meute derrière eux a ralenti, puis s'est arrêtée. Ils sont seuls sur cette autoroute, encadrés par un public de plus en plus nombreux qui se masse, curieux et avide de connaître le fin mot de cette histoire des plus rocambolesques. Devant l'inévitable, Simpson accepte de coopérer après plus de deux heures de fuite. Résigné et plus décidé à se suicider finalement, il fait demi-tour et tranquillement décide de rentrer chez lui. À son arrivée, l'attendent bien entendu les menottes, l'humiliation publique de devoir se faire embarquer et la prison. Il a tout de même la possibilité de boire un verre de jus de fruits, d'appeler sa mère et d'utiliser sa salle de bain. Il s'effondre dans les bras des policiers chez lui, se confondant en excuses. La bataille judiciaire qui s'engage alors va rapidement être aussi prolifique en rebondissements que cette fuite en branco. Et pour la petite histoire, cette Ford iconique de l'histoire des États-Unis vit toujours. Elle a été rachetée par l'ancien manager de Simpson, qui l'a conservée dans un état impeccable, ainsi que la plaque de l'époque. Et alors que certains collectionneurs lui ont proposé des sommes proches des 300 000 dollars pour en faire l'acquisition, il a choisi de la léguer à sa mort à un musée du crime dans le Tennessee. cette anecdote à elle seule, vous donne une idée de l'ampleur médiatique que prend tout de suite cette affaire aussi particulière que malsaine. La fausse moustache, la fausse barbe et le contenu du sac à dos, alors qu'ils auraient pu faire office de preuve et être versés au dossier, ne sont même pas considérés comme des pièces à conviction. En effet, dans sa transe, Simpson a eu la présence d'esprit de ne pas conduire. Toute la cavale est donc imputable à son ami et aussi, rien ne prouve de manière claire que ces éléments lui appartiennent. En effet, le contexte social est particulièrement tendu à Los Angeles depuis quelques mois. Cela explique en partie que la foule se soit amassée au bord de l'autoroute pour apporter son soutien à Simpson. Le LAPD, la police de la ville de Los Angeles, est au cœur de tensions raciales au moment où l'affaire éclate. En réalité, c'est depuis le milieu des années 1960 que la situation est explosive. Les hautes sphères de l'institution sont ouvertement racistes. Certains sont allés jusqu'à affirmer que les Noirs auraient des particularités anatomiques expliquant qu'ils soient plus fréquemment des criminels. Entre 1985 et 1994, certaines personnalités afro-américaines sont arrêtées à la suite de contrôles abusifs et la police est condamnée à leur verser des dommages et intérêts. Mais la principale affaire qui fait parler la poudre est le tabassage en règle d'un automobiliste noir en 1991 par 4 policiers. Lors du procès, les accusés sont acquittés par un jury composé de blancs, d'un asiatique et d'un latino. C'est immédiatement l'émeute à la suite de l'énoncé du verdict. Plus de 2300 personnes sont blessées et une cinquantaine trouvent la mort. Un millier de bâtiments sont détruits à Los Angeles. Nous sommes alors moins de 3 ans avant l'affaire O.J. Simpson. Autant vous dire que le procès qui s'ouvre est un brasier potentiel. En effet, Simpson est lui-même afro-américain. L'opinion, chauffée à blanc, attend le début des audiences préliminaires dans une ambiance délétère et insidieusement alimentée par la défense. Ils espèrent déjà jouer la carte du procès déclenché par racisme. Tout va très vite. Et le 20 juin, O.J. Simpson et son avocat se retrouvent devant le juge.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de l'histoire, celle de O.J. Simpson. La star de télévision américaine et ancienne gloire de foot US se retrouve mêlée à une sordide histoire de double meurtre, dont celui de son ex-femme. Face à des indices pour le moins compromettants, les enquêteurs l'arrêtent à la suite d'une course-poursuite effrénée entrée dans l'histoire. Incarcéré, Simpson prépare sa défense alors que se profilent les audiences préliminaires. Dès le départ, les choses se passent d'une manière particulièrement tendue, voire bizarre. Oui, en effet, le 20 juin, O.J. Simpson, en accord avec son avocat, décide de plaider non coupable devant le juge. Mais Shapiro, principal conseil du suspect et pourtant très reconnu, s'en mêle les pinceaux, rate son premier plaidoyer et demande l'autorisation de recommencer. La juge accepte. Afin de prendre l'accusation de cour, il demande un procès rapide. Nouvel acquiescement de l'autorité judiciaire qui fixe l'audience 10 jours plus tard. Simpson, lui, apparaît hagard et hébété. Son avocat évoque sa dépression et sa prise de médicaments. L'homme de loi demande également au procureur d'avoir accès à toutes les preuves. Marcia Clark, qui vient d'être nommée, accepte elle aussi. Retenez bien le nom de cette femme, Marcia Clark, qui sera véritablement le caillou dans la chaussure du suspect du début à la fin du procès. Son acte d'accusation est développé avec le grand jury et elle recense assez de témoins pour avoir l'esprit tranquille quant à l'issue favorable de la bataille qui s'engage. Cependant, 2 gros coups durs aussi spectaculaires qu'inhabituels frappent presque simultanément l'accusation. En premier lieu, une des témoins qui a accepté de témoigner du fait d'avoir croisé Simpson à proximité du lieu du crime peu avant 23h le soir du meurtre, vend son histoire à la télévision contre $5,000. La conséquence est immédiate et sans appel. Son témoignage n'est plus recevable. Pire encore. Le 22 juin, le bureau du procureur fait fuiter dans la presse un appel de l'ex-femme de Simpson à la police daté d'octobre 1993. Elle se plaint du fait qu'il la harcèle devant chez elle. Cette fuite est une erreur monumentale de l'accusation dont la défense, elle, profite bien entendu. L'avocat de la star fait invalider le grand jury et la juge lui donne raison. Se profile alors la date fatidique du 30 juin et de cette audience préliminaire durant laquelle O.J. Simpson risque tout bonnement un procès où la peine de mort est une possibilité. Une semaine après ces deux premiers rebondissements, s'ouvre à 9h10 l'audience préliminaire de l'affaire O.J. Simpson. Elle est publique. Elle est diffusée en direct sur les principales chaînes télé du pays et déjà, la machine médiatique s'emballe. Le bureau du procureur compte s'en servir et ne se limite pas à l'exposition des preuves. La proc montre les muscles, démontre la force de son acte d'accusation. La défense, elle, joue une autre carte pour le moment, celle de la discrétion. Alors que celle qui mène l'accusation assène coup sur coup, fait témoigner un inspecteur et tente de montrer l'influence néfaste des tabloïds sur la corruption de témoins, l'avocat de Simpson, lui, essaye de faire invalider les preuves trouvées chez lui. En effet, les policiers sont entrés sans mandat dans la propriété. L'enjeu est de taille. On parle ici de taches de sang sur les murs ainsi que du gant ensanglanté retrouvé au sol. La juge n'ira pas jusqu'à l'invalidation des pièces à conviction, ce qui soulage le bureau du procureur mais autorise la défense à déposer une motion de suppression de ces éléments lors du procès pénal. Maigre victoire. La détermination de l'accusation semble accabler complètement la défense. Le 8 juillet, un premier verdict tombe. Assez d'éléments peuvent laisser penser que Simpson est un coupable potentiel. Victoire cependant quelques mois plus tard, lorsqu'après une longue réflexion, la peine de mort est écartée. En effet, on juge que le casier du suspect n'est pas assez chargé et donc la peine maximale possible sera celle d'une prison à vie sans possibilité de libération. O.J. Simpson, toujours hagard et hors du coup, attendra son procès en prison. À la fin du mois de septembre, le choix du jury s'opère. Les deux camps ont embauché chacun un cabinet de consulting afin de réaliser des enquêtes sur les sélectionnés. 900 individus sont convoqués pour un choix portant sur 12 jurés principaux et 12 suppléants. Le tri qui doit s'opérer est alors dantesque. Chacune des parties essaye bien entendu de composer un jury qui lui est le plus favorable. Le jeu des chaises musicales démarre et au bout de 4 jours, le total des candidats est ramené à 300 personnes après une première étape de sélection. L'accusation obtient le fait d'isoler le jury afin qu'il ne soit pas soumis à différentes influences sociétales ou médiatiques. Les 300 finalistes doivent ensuite remplir un questionnaire de plus de 80 pages et 294 questions afin de les départager. Durant 10 jours, les deux parties étudient attentivement les réponses et font leur choix. Le 12 octobre commencent les entretiens individuels dans le bureau du juge. Les avocats posent des questions. Ils disposent d'une vingtaine de droits de révocation qu'ils tentent bien entendu d'utiliser chacun à leur avantage. La défense va rendre la vie impossible à l'accusation, réfutant chacune des mises à l'écart de jurés noirs, arguant que les Afro-Américains sont des cibles du bureau du procureur. Et vous l'imaginez bien, tout le monde marche donc sur des œufs. La sélection finale des 24 jurés semble convenir à tout le monde. 15 sont Afro-Américains, 6 blancs, 3 latinos. Tous sont démocrates. 2 ont un diplôme universitaire et aucun ne regarde les infos tous les jours. 5 sur les 24 estiment que la violence sur un proche familial est plutôt acceptable. Oui, vous avez bien entendu. Et 9 d'entre eux estiment que Simpson a moins de chances d'avoir commis le crime car il est une star du foot aux États-Unis. Donc, sacré panel, comme vous pouvez le comprendre. En face, l'accusation est satisfaite de la présence de 8 femmes afro-américaines et de 2 femmes blanches. Les dés sont enfin jetés et les équipes vont pouvoir se constituer. Le suspect, lui, prévoit de s'attacher les services d'une Dream Team encore jamais vue dans l'histoire judiciaire du pays. Petit tour d'horizon de cette équipe de choc. Nous l'avons déjà cité, mais Robert Shapiro est la tête de gondole de la défense de la star. Cet ami des célébrités, grand spécialiste des magouilles, accepte tout de suite de prendre en charge le dossier. Mais il n'est pas assez présomptueux pour se croire omnipotent. Il recrute donc autour de lui une myriade de spécialistes, comme un chef de la police qu'il débauche, plusieurs détectives privés, un spécialiste des détecteurs de mensonges. Ce dernier fait passer OG sous le révélateur. Le résultat est catastrophique, mais Shapiro ne perd pas espoir, envisageant même d'aller jusqu'à plaider la folie. Il fait de surcroît examiner Simpson par une foule de médecins afin de démontrer que son manque de blessure contraste avec la violence de la scène de crime. Hormis un doigt coupé et bandé, rien n'est repéré. Si Shapiro mène la défense, il est rejoint par l'avocat noir le plus célèbre de Los Angeles, Johnny Cochran Jr. Ce conseil de Michael Jackson, rien que ça, rejoint l'équipe et dispose de l'immense avantage d'être un pionnier de la lutte raciale. Il ne souhaite pas y être associé pour ce dossier, mais le fait est que sa présence pèsera dans la balance de manière considérable. Avant le procès pénal, la principale volonté de Shapiro est de discréditer le principal témoin de l'accusation, un enquêteur de la LAPD présent le soir des meurtres. Avant que le procès ne s'ouvre, en janvier 1995, la Dream Team est chargée de creuser le passé de cet homme. Et, à force de chercher, bien souvent, on déterre de vieux secrets. Bingo ! On découvre qu'en 1981, il a failli quitter la police, ne se sentant plus apte à exercer. Et pire, en 1988, il est accusé de racisme. Bien que cette équipe de choc soit composée d'une dizaine d'avocats parmi les plus influents des États-Unis, des dissensions se créent et Shapiro commence à avoir un comportement étrange. Une fois le passif du principal témoin de l'accusation découvert, il propose de plaider coupable et de négocier un accord. En décembre 1994, il décide d'offrir une bouteille d'eau de Cologne à tous les journalistes qui suivent de près le dossier et décide de partir en vacances à Hawaï quelques semaines avant l'ouverture du procès pénal sous un pseudonyme. Son voyage en première classe, qu'il tente de dissimuler, sort dans la presse tout début d'année 1995. Se déchirant par voie de presse, toute l'équipe de défense est convoquée en prison par leurs clients qui tranchent dans le vif et annoncent que désormais, Cochrane sera le principal avocat du dossier au détriment de Shapiro. Ce climat s'apaise donc juste avant l'ouverture du procès à Los Angeles. En tout et pour tout, O.J. Simpson aura à payer plus de 6 millions de dollars de frais d'avocat sur la durée de ce premier procès. Et les festivités, elles, s'ouvrent le 23 janvier 1995. L'accusation mène clairement durant toute la première partie du procès. Elle présente des preuves accablantes. 58 témoins défilent à la barre jusqu'au mois de juillet. Les éléments avancés par l'accusation sont nombreux. Le portrait psychologique d'O.J. le présente comme un homme double, souriant lors des shows télé et violent dans l'intimité. Pour preuve, l'appel de Nicole, son ex, au 911. Apeurée, elle le présente comme un homme violent et instable. Selon le bureau du procureur, sa jalousie est le mobile du double meurtre. Ils vont démonter son emploi du temps, arguant qu'il lui est possible, le soir des crimes, de tuer avant de monter dans l'avion pour Chicago. L'élément central des preuves matérielles sont les gants, dont l'un a été retrouvé sur la scène de crime et l'autre dans le jardin de la star. Sans parler des taches de sang qui ont été comparées, les résultats revenant positifs. La probabilité d'une erreur est infime, 0,43%. Les tests ADN, eux aussi, correspondent. Et je vous rajoute à cela les traces de chaussures qui sont de la même pointure que celles portées habituellement par Simpson. Autant vous dire, comme vous pouvez l'imaginer, que personne ne donne chair de sa peau à ce moment du procès. Mais la Dream Team, elle, fait le dos rond. Elle attend le bon moment pour sortir du bois, c'est-à-dire la visite des lieux du crime. C'est chose faite le 12 février 1995. Le juge, les jurés et les avocats se rendent sur place. Tous visitent en groupe de quatre la maison de l'accusé. Avec l'accord du juge, la statue taille réelle du footballeur a été dissimulée au préalable. Ses avocats ont d'ailleurs pris le soin de modifier la décoration du lieu, ajoutant des dessins de ses enfants et des photos d'Oji avec sa femme ou sa mère. C'est une mascarade. Mais l'effet escompté est au rendez-vous. Le bureau du procureur proteste devant le fait que les jurés sont invités à passer par la salle des trophées du joueur afin de les impressionner. Mais rien n'est fait pour l'empêcher. Le restaurant dans lequel travaille l'une des deux victimes est la prochaine étape avant la scène de crime. Oji, lui, reste alors à l'écart dans l'un des véhicules de police. Petit à petit, la défense reprend des forces. Et le 9 mars, on attend le témoignage clé de l'accusation. Celui du policier de la LAPD qui a trouvé le gant ensanglanté dans le jardin de Simpson. Mais là, et pour la première fois, la Dream Team a des éléments non négligeables à produire. Ces interrogatoires s'annoncent alors des plus déterminants.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous relate l'heure H d'O.J. Simpson et de son procès ultra-médiatique et qui démarre pour lui de la pire des manières. Au mois de mars, alors que se profile l'interrogatoire du policier ayant trouvé le gant chez l'accusé, rien ne laisse penser que la star va pouvoir se tirer d'affaire. Au contraire, les preuves avancées par l'accusation semblent faire mouche dans le jury. La Dream Team, ce consortium d'avocats réuni par Simpson, attend, elle, patiemment son heure et place ses pions de manière intelligente. Ils évitent ainsi les balles et les boulets tirés par l'accusation. Ils n'en utilisent pas moins en retour des procédés de défense pour le moins agressifs. Le 9 mars est annoncé pour les avocats de Simpson comme un grand moment. Celui qui consiste à mettre à mal le policier de la LAPD en le confrontant à son passé de raciste et à ses préjugés sur les Afro-Américains. Mais à la surprise générale, l'échec est cuisant pour la défense, qui se trouve face à un homme qui ne se démonte pas et dont le passé glorieux dans les forces de l'ordre plaide pour lui. De plus, des collègues noirs témoignent dans le sens de son intégrité. Retour à la case départ, donc. L'accusation de son côté semble de plus en plus confiante. Trop ? Elle ne va pas tarder à commettre des erreurs qui lui seront fatales. L'ADN retrouvé sur la Bronco et sur la scène de crime devient inutilisable lorsque la Dream Team trouve l'argument tant attendu. Un technicien de laboratoire a laissé la fiole contenant le sang de l'accusé dans une poche de manteau près d'une journée entière avant de l'analyser. Alors que la défense s'appuie entre autres sur l'incompétence policière pour faire acquitter son client, cette faille mise à jour est du pain béni. Mais le coup de grâce reste à venir. L'essai du gant. Nous sommes le 15 juin 1995, il est 14h25. L'audience a repris après la pause déjeuner quotidienne et O.J. Simpson transpire à grosses gouttes. La chaleur de l'été qui arrive n'est pas la seule responsable. Aujourd'hui, l'une des étapes clés du procès a lieu. La confrontation de l'accusation avec les gants retrouvés sur la scène de crime. Toute l'équipe est crispée et attend ce moment avec une impatience mêlée de crainte. En effet, tout peut se décider sur ce moment précis. La marque des gants est Harris, la taille extra large. On sait déjà que l'ex-femme de Simpson en a acheté deux paires à New York l'année précédente. Avant la pause de l'audience, l'accusation a admis que de faire essayer les véritables gants à Simpson est une trop grande prise de risque. L'idée est donc de lui faire enfiler une paire neuve. C'est là que Cochrane, l'avocat principal de l'accusé, a l'idée de génie de demander que la star essaie celui retrouvé sur place et non la paire présentée par l'accusation. Stupeur dans l'assistance. Stupeur également chez O.J., mais le juge accepte finalement et la pièce à conviction est apportée en premier lieu pour le comparer aux gants neufs. L'expert conclut que ce ne sont pas les mêmes et le jury est renvoyé à l'hôtel. C'est alors qu'un des avocats de la défense provoque le coprocureur qui craque et accepte que Simpson enfile le gant de la scène de crime. D'abord sans le jury, puis finalement, il va jusqu'à demander que ce soit fait devant les jurés. La stupeur change de camp. L'accusation prend un risque maximum. Le coprocureur présente à la star le gant gauche en le mentionnant comme celui retrouvé chez lui, alors que c'est en réalité l'inverse. Pour ne pas compromettre la preuve, l'accusé doit enfiler en dessous une paire de gants latex. Au moment d'enfiler le gant, c'est la catastrophe pour les procureurs. OG garde le pouce plié, mime le fait de ne pouvoir enfiler le gant, n'arrive d'ailleurs pas à enfiler correctement ce gant. Cette séquence est primordiale pour la suite des événements. Le fabricant importe les jours suivants une paire de gants neufs qui, cette fois-ci, semble s'ajuster à la main du footballeur, mais se compromet ensuite en adressant un courrier au bureau du procureur, lui promettant sa présence à la fête de la victoire. La confiance change de camp définitivement. Face à la possibilité que le gant retrouvé ne soit pas à la bonne taille, les autres preuves matérielles, pourtant solides, passe presque inaperçu, la défense renvoyant sans cesse la balle. Le procureur, complètement dépassé par ce rebondissement inattendu, doit en plus se passer d'une partie de ses investigations. Elle a en effet oublié d'envoyer au juge et à la défense une partie des images et un rapport lié à un témoignage d'expert, dans lequel figure la constatation que la moquette retrouvée sur le gant correspond à celle d'un Ford Bronco, 1993 ou 1994, soit le modèle utilisé par Simpson. Afin de limiter la casse, face à un jury particulièrement fragile et qui commence à se disloquer, 5 suppléants sont devenus jurés à part entière. Après les rebondissements qui s'accumulent, l'acte d'accusation est clôturé le 6 juillet 1995 après, tenez-vous bien, 58 témoignages et 34 500 pages de retranscription. La défense, elle, est confiante. C'est le résultat de procédés bien pensés de la part de la Dream Team. En effet, toute leur stratégie a reposé pendant le procès sur la réfutation des preuves avancées par l'accusation sur base du doute. À de multiples reprises, c'est la police qui est mise en cause, accusée de conspirer contre OG. Elle n'hésite pas à jouer la carte raciale, ce qui agace bien entendu l'accusation. De plus, elle vise le procès rapide afin de profiter de la popularité de la star qui s'érode face aux jours de prison qui s'enchaînent. Le deuxième tournant du procès se jouera sur l'autel du racisme. Vous vous souvenez de l'interrogatoire du policier jugé raciste qui ne s'est pas démonté et est même allé jusqu'à affirmer sous serment n'avoir jamais utilisé le terme « nigger », »,« nègre » en français. Eh bien, la défense trouve des bandes magnétiques dans lesquelles cet homme a été enregistré dans le cadre d'un scénario de film qui n'a jamais vu le jour. À 41 reprises au cours de ses entretiens, le policier utilise ce terme péjoratif qui vise les Noirs. Deuxième catastrophe pour l'accusation. Malgré ces derniers rebondissements, l'équipe du procureur reste persuadée de pouvoir faire accuser O.J. Simpson. Les 12 jurés se réunissent et opèrent un premier sondage avant leur délibération. 10 votent pour l'innocence, 2 pour la culpabilité. Les discussions s'enchaînent et tournent beaucoup autour du fait que Simpson ne portait pas de bleu ni de traces de lutte, alors que le serveur s'est, semble-t-il, vigoureusement battu avec son agresseur. En moins de 3h30 et après de vigoureux échanges, le verdict est rendu. C'est une surprise totale pour tous les acteurs du procès et la défense est persuadée que seule la culpabilité peut être décidée aussi rapidement. Un seul avocat sur les 11 de la défense peut être présent aux côtés d'O.J. Simpson lors de la remise de l'enveloppe à la greffière du tribunal. En prison, l'accusé retrouve Kardashian et Cochrane, tout sourire, qui viennent d'être interrompus par des gardiens qui leur ont demandé un autographe de la star. En effet, certains agents du tribunal ont fait fuiter que c'était pour eux la dernière chance d'en avoir un. L'optimisme serait-il de mise ? Le lundi suivant, à la surprise générale et à l'unanimité, O.J. Simpson est déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation qui lui incombent. Nous sommes le 3 octobre 1995, il est 10h, et la star de football américain est libre, alors que tout le monde le présentait comme coupable. Le tout devant 100 millions de téléspectateurs, vous avez bien entendu. Le procès en appel qui s'ensuit le déclare également non coupable. Mais le procès civil, lui, le considère coupable et il devra verser aux familles des victimes plus de 30 millions de dollars. Jugé responsable, donc, mais pas coupable. O.J. Simpson va faire un retour à la case prison à la suite d'une sombre affaire de séquestration et vol à main armée. Condamné à 33 ans à Las Vegas le 4 octobre 2008, il est libéré par anticipation en 2017. Aujourd'hui âgé de 75 ans, O.J. Simpson se fait plus discret et n'a plus jamais été inquiété pour le double meurtre de son ex-femme et de son petit ami. Cependant, une interview de 2006 a refait surface récemment, dans laquelle il reconnaît implicitement avoir participé à l'assassinat avec l'aide d'un dénommé Charlie. Il dit ceci. « À ce moment, je pense que Charlie a suivi Goldman à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème et il avait emporté le couteau. J'ai pris le couteau de la main de Charlie et pour être honnête, après ça, je ne me souviens plus, à part que je suis là, debout, et qu'il y a du sang partout. » Selon les journalistes qui ont vu en avant-première les images, Charlie n'est autre qu'un alter ego inventé par Simpson pour se déculpabiliser. En réalité, il aurait été seul. Alors d'après vous, O.J. Simpson, coupable ou innocent ? Voilà donc pour le récit de cette affaire, l'affaire O.J. Simpson, que j'ai eu le plaisir de vous partager aujourd'hui grâce à la complicité de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.